qui est là?
Hal.
Hal qui?
Avant tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h.
Toc Toc.
Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes en direct. Il réalise des documentaires largement empreints de sensibilité, sans doute une facette de sa personnalité altruiste, mais complexe. Paul Philippe est mon invité ce soir.
Bonjour.
Bonsoir Paul Philippe.
C'est altruiste mais complexe.
plein de sous-entendus.
Non,
plein
bien,
de...
Super,
trois
bien.
Petits points. Bonsoir et bienvenue.
Merci de m'accueillir.
Et merci d'avoir accepté cette invitation.
Ah, mais c'est moi qui suis. C'est moi. On va arrêter de s'envoyer des compliments, mais merci de m'accueillir.
Voilà. On va essayer de mieux connaître Paul Philippe. Alors Paul Philippe, un nom, un visage, toujours assez connu en Corse.
C'est toujours...
Vous êtes toujours très connu,
oui,
hein, malgré l'âge.
Oui,
ouais,
mais...
on connaît toujours.
Non, je sais pas, je suis connu. En tout cas, je sais pas.
On visualise, voilà, votre travail. Voilà, producteur, réalisateur, au sein de la case Diandi, comme on l'appelle, au sein des programmes de France 3 Corse via ST.
Depuis longtemps, faut dire.
Depuis fort longtemps. Avant de nous intéresser davantage à votre travail, à vos œuvres, on va essayer de mieux vous connaître. De mieux cerner cette personnalité altruiste, mais complexe. Alors, tout d'abord, je vous propose quelque chose d'assez chronologique, hein. Votre enfance.
Bon.
Où s'est-elle passée?
C'est passé dans plusieurs endroits. Je suis né à Ajaccio. J'ai vécu, petit jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai vécu en Corse, puis à Ajaccio, et après, pendant quelques années sur le continent, comme plein de gens, dans la région parisienne, à Fontainebleau. À Avon, précisément, pour ceux qui connaissent. Bah, c'est une toute petite ville à côté de Fontainebleau. Donc à 70 km de Paris, pour être précis. Et après, quand j'avais jusqu'à l'adolescence. Quand j'ai eu 14-15 ans, je suis rentré en Corse avec ma famille. D'abord à Corté, puis après, j'ai fait mes études à Ajaccio, puis retour à Corté à l'université, voilà.
Alors, une enfance plutôt joyeuse.
Ah oui, je pense, oui. J'ai une enfance plutôt heureuse, oui. J'avais des parents gentils.
Et que faisaient vos parents dans la vie? Avec un frère et une sœur, hein?
Oui, avec un frère, un grand frère et une grande sœur, je suis le dernier, ouais. Pas le dernier, les derniers, j'espère. Et oui, donc mon père était employé dans une banque et maman travaillait à la maison, on va dire, voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est votre famille qui vous a donné cette curiosité, ce goût de la lecture, ce goût de la culture?
Je sais pas. Oui, enfin, je pense que c'était une famille qui s'intéressait à plein de choses, ni plus ni moins que d'autres familles. On était soucieux de l'éducation, de l'école. On voulait que nos parents voulaient qu'on réussisse, ils voulaient qu'on travaille bien à l'école. Et puis, je pense que ça aiguise la curiosité, quoi. Puis après, je sais pas, comme j'étais le petit dernier, j'avais tendance à peut-être à me raconter des histoires, je sais pas.
Enfin... Et on a un traitement entre guillemets de faveur quand on est le dernier ou pas forcément?
Alors moi je veux dire que non, mais je pense que enfin, ma soeur dirait sans doute le contraire. Mais oui, enfin disons que j'étais plus souvent avec ma mère, voilà, donc c'est sûr, c'est très intime ce questionnement. Oui, en
mais
effet.
Vous n'êtes pas, si vous me trouvez impudique, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre.
Non, je parle d'intimité, je parle pas d'impudeur. Non, au contraire, non, en effet, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a peut-être un truc de. Un lien un peu privilégié peut-être parce que moi j'étais toujours à la maison, j'étais encore au collège quand mon frère et ma sœur étaient au lycée, qui rentraient pas à midi, moi je rentrais à chaque fois, j'étais toujours avec ma mère, quoi, voilà, c'est ça, ça crée des liens. Oui.
Et justement,
vous faites rougir à la radio, ça se voit pas, mais
ah non, je trouve pas, moi j'aime bien les gens qui rougissent, hein, j'aime beaucoup parce que je rougis moi aussi, donc
ça va,
c'est encore plus touchant. Et cette scolarité, bon élève plutôt?
J'étais plutôt un bon élève, ouais.
Littéraire déjà?
Je sais pas, bon, ni un très grand élève, ni un très très bon élève, ni un... Bon, oui, j'étais un bon élève, ouais. Le littéraire, oui, j'ai fait des études plutôt littéraires, j'ai fait au lycée, j'ai fait des... Parce que ça m'intéressait, ouais. Ça m'intéressait, j'aimais bien les langues, j'aimais bien le français, j'aimais bien écrire, voilà. Ça c'est... Après, à l'université, j'ai fait d'autres choses, mais... pas que de la, que des lettres, mais oui, ça m'a toujours intéressé beaucoup plus. J'étais pas du tout amateur, j'étais un nan. J'arrivais à biaiser, à faire croire aux gens que je comprenais quelque chose. J'ai fait même au bac, j'ai fait croire que je comprenais quelque chose, et je pense, je sais pas si le prof a été dupe, ou alors qu'il a été particulièrement indulgent. Ah ouais, mais oui, mais la note, ça va rien dire du tout. J'ai eu 14, mais c'était plus en deux, c'était à l'oral, et le type, je sais pas si. Bah,
ah, vous avez fait une audition et voilà. 14,
non, il m'a posé une question. Pour moi, c'était très. c'est complètement assez idiot ce que je vais raconter. Non, il m'a posé une. Je sais même plus ce que c'était le sujet, mais il fallait dessiner un truc. Je suis incapable de dire ce que c'était. Il a eu de la pitié pour moi. Il m'a dit, Philippe, il fait un effort. Voilà, il m'a mis 14. J'ai eu de la chance, je crois. L'autre note était meilleure, mais je suis plus fier des autres notes que de celle-là. On oublie qu'on est à la radio avec vous.
je sais recevoir. Hein.
Ah bah ça, c'est vrai. Ouais.
Est-ce que lorsque vous étiez enfant puis plus tard adolescent, vous rêviez, alors je sais que c'est compliqué, on se rêve pas réalisateur ou écrivain ou je ne sais quoi, mais est-ce que vous saviez déjà que vous aviez envie de raconter des histoires et que vous auriez envie de faire ce métier-là quand même artistique, voilà, de partager voilà votre imagination avec d'autres?
Moi j'ai jamais c'est un peu accidentel, la télévision, tout ça. Moi, oui, bien sûr, je suis un enfant de la télé, donc je regardais beaucoup la télévision, je regardais beaucoup de films à la télévision, ça me plaisait. J'étais pas ni un cinéphile forcené, moi, j'aimais dessiner, le volet artistique, c'est plutôt ça. Je m'imaginais comme plein d'enfants à cette époque, de 13, 14 ans. On s'imagine artiste parce qu'on trouve qu'artiste, c'est sexy comme métier, quoi. C'est plus sexy que d'autres métiers. Voilà. je vais imaginer personne. Mais en tout cas, oui, il y a d'autres métiers m'intéressaient moins. J'avais pas envie de m'enfermer dans un bureau. De fait, je suis souvent dans un bureau, mais je suis dans un bureau à sulfurer, quoi. À faire, j'ai ma tête qui, ouais, je réfléchis, même dans mon travail, j'ai mis du temps à vraiment être dans cette situation de raconter des histoires et de me dire mon métier, c'est de raconter des histoires et de trouver les images pour les images et les sons pour les raconter. Et c'est toujours un stress tout le temps, mais la dimension artistique, comme vous dites, qui pourrait être un peu un grand mot, mais en tout cas oui, ma dimension artistique de ce travail-là, c'est surtout quand le film est fini qu'on se rend compte avec tous les atermoiements, toutes les difficultés, toutes les galères, les angoisses que ça peut qui accompagnent ça, c'est surtout à la fin qu'on se rend compte qu'on a fait un travail avec des guillemets, avec un contenu artistique, en tout cas avec une forme artistique. Quand on travaille, c'est aussi, vous savez ce que c'est, parce que vous faites de la radio, il y a aussi cette dimension un petit peu d'amener un peu de poésie et des images dans l'esprit des gens, quoi, du rêve dans l'esprit des gens. Ben, quand on travaille, on est quand même surtout c'est concret, quoi. Il faut qu'on soit dans une salle de montage, on a tel nombre de jours pour fabriquer un film. Quand on tourne, il y a des contingences, quoi. On travaille avec une équipe de tournage, on doit penser aux images parce que c'est les images qui vont raconter l'histoire. Ça, c'est cette dimension artistique de la réflexion et de la façon dont on va raconter l'histoire. Mais concrètement, on doit gérer on doit travailler avec une équipe, on doit se déplacer. C'est très concret, quoi. C'est avant d'avoir une forme et d'amener de la poésie, si on y arrive, ou et du rêve, et emmener les gens dans une histoire, c'est des choses très concrètes, quoi. C'est des caméras, c'est de l'électronique. On est dans une salle de montage, on hésite, on a des problèmes techniques. C'est très terre à terre, en fait. Mais toutes ces choses terre à terre, moi, je pense que encore une fois, avec beaucoup de précautions, tous les gens qui font du travail artistique, entre le moment où il y a cette réflexion, cette envie de raconter une histoire, le moment où elle aboutit, il y a toute cette, il y a beaucoup de galères, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer parce qu'elles sont, oui, elles sont terre à terre. C'est un travail, voilà. C'est d'abord un travail. Et après, on est satisfait quand les gens le voient. C'est ce qui s'est passé avec mon dernier film, quand on est dans une salle, parce que c'était en l'occurrence une avant-première, et qu'on se rend compte que les gens, donc tout ce qu'on a fait pour y arriver, aboutit à un instant un peu de grâce, entre guillemets, où on est d'abord très inquiet, et où on se rend compte que le public réagit, et qu'il voit des choses qu'on a voulu mettre dans le film, en se demandant s'il les verrait. Voilà, je sais pas si c'est très clair, c'est peut-être pas très français ce que
non,
je dis.
Non, ça l'est.
Voilà, donc j'ai complètement oublié la question. Je suis parti, laissez-moi l'antenne, je reste jusqu'à... Toute la nuit.
Jusqu'à 18h, je peux parler, écouter. Moi, je me disais tout à l'heure, lorsque je préparais cette rencontre, cette interview, que je suis quasiment sûre, alors, et c'est bête de dire ça, hein, mais bon, je suis pas quasiment sûre, mais je me disais que si vous n'aviez pas été réalisateur à la télévision, je pense que vous auriez peut-être gagné votre vie en dessinant.
Comment dire, le silence là. Non, j'aurais aimé, mais je sais.
Parce qu'on vous trouve, on vous trouve souvent en train de dessiner.
Oui. Et puis vos... Mais je sais maintenant, à mon âge, que je me sens à l'aise. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je gribouillais, quoi.
Même vos documentaires, vous les illustrez, vos synopsis, vous les illustrez avec vos dessins. On a pu voir vos dessins dans certains de vos documentaires.
Oui, c'est vrai, mais en fait, ça aussi, c'est comment dire, moi, les choses étaient très dissociées, quoi. C'est-à-dire que je dessinais dans mon coin, je faisais des dessins pour des amis, qui honnêtement n'étaient pas forcément très bons, quoi, mais je faisais des dessins. Le moment où, il y a eu un moment, parce que c'est quelques temps que je travaillais à la télévision, quand même, depuis 93, et il y a un moment où, d'un coup, ça m'est paru possible
de lier
les choses, voilà, d'avoir un peu de souplesse, voilà, se dire qu'après tout, tiens, je fais des dessins, je peux faire des dessins dans mon film, il manque des images, je vais inventer des dessins. Et puis même l'acte de dessiner, je peux l'intégrer dans des films, c'est-à-dire voir une plume se déplacer sur un papier, dessiner un arbre, des choses comme ça, qui racontent, qui sont à la fois un mouvement, pas simplement le dessin qui illustre, mais l'acte de dessiner est aussi une manière de raconter le récit en train de se faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire.
Tout à fait.
Notamment, j'avais fait un film il y a quelques années qui s'appelait Le premier qui voit la mer, qui est un film très personnel, et donc ça se d'ailleurs, je vous parlais de
assez autobiographique, hein.
Où le fait de d'illustrer et de se mettre en soi-même, moi-même en train d'illustrer, c'était pas forcément moi, mais ma main en train de dessiner, c'était une manière de c'était un work in progress, quoi. C'est-à-dire assumer la dimension artisanale, voilà. Je trouve ça intéressant d'être dans une espèce d'artisanat, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai appris la télévision comme tous mes collègues, comme ceux qui ont commencé à la même période que moi, comme plein de gens, comme des gens qui sont autour de cette table comme vous-même, on a tous un peu appris sur le tas. Et il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Et moi, c'est une rencontre. Moi, j'ai eu cette opportunité, cette chance, une série de chances qui ont fait que j'ai rencontré la télévision. Et que dans cette télévision, au début, j'ai fait un petit peu de, j'ai débuté c'était un peu compliqué de comprendre la mécanique et de la télévision. Puis après, quand on commence à être plus à l'aise, d'un coup, on se dit, bah, après tout, qu'est-ce qui m'empêche de mettre des dessins dans mon film, quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre des photos personnelles, de rajouter, en plus de ce que je fais avec l'équipe de tournage, de rajouter des images simplement qui sont plus personnelles, qui sont plus à la fois vues avec mon propre regard et, quand je peux le faire, reproduites avec mon propre dessin. Voilà. J'avais fait aussi des films sur la déportation il y a pas très longtemps, et forcément la déportation et les images de la déportation c'est des images complexes, quoi, compliquées, parce qu'elles sont... elle n'existe pas, quoi. Les peu d'images qu'il y a sont des images souvent qui ont été faites par les bourreaux ou par les libérateurs des camps. Et se dire, je vais assumer l'idée d'une part d'imaginaire là-dedans, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'un dessin, essayer de se dire, ce que je vais montrer, ce n'est pas une vision authentique du camp de concentration, mais c'est une vision personnelle. Voilà. Voilà comment moi je perçois ça. Donc, c'est un dessin, ça vaut ce que ça vaut, ça n'a pas de valeur, de témoignage, parce que je serais incapable de témoigner de quoi que ce soit, mais aucune personne de ma famille n'est passée par ces épreuves terrifiantes. Mais ça fait partie d'un imaginaire collectif. Donc, avec avec humilité, si on peut dire ça comme ça, parce que quand même on se met en scène, donc c'est humble, mais c'est quand même un peu égocentrique, quand même. Je vais essayer de raconter cette histoire avec les moyens du bord, voilà. Et les moyens du bord, moi, mes moyens, c'est de filmer, de prendre des archives, d'écrire un texte, de le dire moi-même, et éventuellement, quand une image manque, de la dessiner, de dire, c'est pas juste pour boucher un trou, mais cette image, elle va raconter.
Elle a du sens.
Elle doit être esthétique, elle doit faire partie de la dramaturgie. C'est pour ça que dans le travail du documentaire par rapport au reportage, Dans l'Europe,
c'est on fait appel aussi à l'imagination.
On fait appel à l'imagination de celui qui fabrique, celui qui raconte, de celui qui regarde. Et je pense que la dramaturgie est essentielle aussi dans le récit d'un documentaire. S'il n'y a pas cette dimension dramaturgique, ou dramatique, ou tragique, ou comique, c'est pas, bon, je fais rarement dans le comique. sauf ici. Mais, voilà, cette dimension-là, elle fait partie d'un récit documentaire. Voilà, quand je travaille sur un récit documentaire, c'est très compliqué parce que moi j'arrive, je me documente et après j'arrive au montage, je panique parce que je ne sais plus par quel bout le prendre. Et je travaille avec une monteuse, je travaille toujours avec elle, donc Véronique Bourrez, qui a un esprit de synthèse et un esprit artistique, qui tire les choses vers le haut, quoi, vraiment. Hein. Et là, d'un coup, on élague, voilà. Et pour revenir à l'essentiel, justement, un récit qui soit une histoire, voilà. Tout à l'heure, vous me demandiez si quand j'étais gauche ou plus jeune, je me rêvais en train de raconter des histoires. Oui, la bande dessinée, j'aurais voulu faire ça, quoi. Mais en fait, c'est là, oui, c'est à ce moment-là qu'une idée devient une histoire en son, en image et en propos et en texte, et que cette image, à la fin, devient un film, cette histoire devient un film et qu'elle rentre dans la maison des gens. Voilà. Je sais pas si c'est très, là aussi, je prends des... Et cette histoire, elle a une dimension de dramaturgie. C'est comme dans une fiction. Or, c'est pas des fictions, c'est du documentaire. Donc, le documentaire se travaille sur le réel, mais c'est un point de vue sur le réel. Et ce point de vue sur le réel, sur un événement, le dernier, c'était un film sur une comédienne, Falconetti, et à partir d'une histoire que je connaissais, que j'ai réussi à reconstituer.
Oui, ça reste un traitement subjectif et artistique.
Voilà, et cette subjectivité c'est pas un gros mot, quoi. Là, c'est pas un gros mot. La subjectivité, souvent, ça fait bondir quand on parle de télévision, parce qu'on fait de la confusion entre les journalistes. Il n'y a pas de subjectivité, c'est pas du tout un positionnement politique, ou un positionnement qui pourrait être rebutant, quoi. Parler de subjectivité, c'est plutôt assumer la notion de point de vue. Et s'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de documentaire. S'il n'y a pas un pas de côté, une façon de se déplacer par rapport au sujet, de le regarder, on n'est pas dans un documentaire, on est dans un reportage. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas les mêmes approches, c'est tout. Ce vers quoi je veux tendre quand je fais du documentaire, c'est un récit qui soit, qui emmène le spectateur, voilà. D'abord, qui m'emmène. Faut que moi, je me sente concerné. Faut que je sois ému quand je travaille. Il faut pas que je sois perdu, parce que je peux être perdu aussi. Mais, voilà, il faut que je sois moi-même emmené dans ma propre histoire. Il faut que je sois le conteur. Et c'est très compliqué de se retrouver à la fois comme conteur et comme auditoire, voilà. Sans arrêt, il faut se poser la question. Mais ça, tout le monde, nous, quand on fait de la radio, quand on fait de la télévision, c'est pareil. On veut être... ou comme là, comme je parle, j'espère que j'articule assez, mais je veux être compris, et je veux que les choses soient,
compris,
et surtout
voilà.
Ne pas trahir le sujet, et pas être, ne pas, surtout pas, et c'est là que la subjectivité est dangereuse, que la subjectivité prenne le pas sur le sujet, et qu'on, en fait, on parle de soi, mais pas du sujet qu'on traite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut mentir, et moi, j'ai pas envie de mentir. Je pense que la part d'imaginaire en documentaire est essentielle, mais cet imaginaire, il faut qu'on comprenne que c'est d'imaginaire. Faut pas qu'on ait l'impression qu'on est en train de mentir, il faut qu'on fasse du mentir vrai. C'est là qu'on puisse, à partir de faits authentiques, donc quand on a des informations, trouver la méthode, les mots et la forme pour que ça devienne une histoire. Mais que cette histoire ne soit pas, c'est pas de la fantaisie, voilà, c'est pas fantaisie. C'est pas fantaisiste, en tout cas, voilà.
Moi, je retiens mentir vrai. Ça fait un peu mot-clé. Je pense que vous avez lancé une mode avec ce mentir vrai.
Je n'ai pas inventé l'expression, je ne sais pas où ça vient, mais je l'entends souvent.
Paul Philippi, je vous propose d'écouter un premier titre, puisque vous signez aussi la programmation musicale de ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre, Riverside, d'Agnès Sobel?
Je ne sais pas comment le présenter, je trouve que c'est quelque chose qui me trouve très touchant. D'abord,
voilà,
je trouve qu'elle a
une
très belle voix. C'est une chanteuse danoise, je crois, qui chante en anglais. Et ça me touche parce que je trouve qu'il y a il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas comment dire, quelque chose de, c'est très presque brumeux, il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas,
c'est de la météo.
Alors ça s'appelle Riverside, donc quelque chose qui est de, c'est très romantique, hein, mais
un fog un peu.
Oui, voilà, il y a une espèce de, il y a des sonorités de, je sais pas, c'est nordique, mais je vois je trouve qu'elle alimente la sonorité et la voix de cette femme, et la mélodie amène une espèce de rêverie qui me touche beaucoup.
Alors, partons vers la rêverie, Agnès Obel, et on se retrouve juste après.
supposed to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way.
Riverside, c'était Agnès Obel. Et vous aviez raison, Paul Philippien, dans une atmosphère,
brumeux, hein.
Une atmosphère brumeuse, mélancolique.
Absolument, oui.
Est-ce que vous êtes un mélancolique?
Oui, je crois, oui, un peu, oui. Oui.
Et
je lutte, hein, contre ça.
Mais... Voilà, et finalement, est-ce qu'il y a des remèdes à la mélancolie?
Des fois.
Est-ce qu'on a des remèdes à cette mélancolie, ou plutôt on s'en sert de cette mélancolie pour...
Remède à la mélancolie. Enfin, c'est une belle émission. C'est pas pesant. Enfin, c'est pas être pesant pour les autres, mais la... non,
coup,
la mélancolie,
c'est
aussi un moteur, c'est la rêverie, quoi. On va dire, je sais pas, entre la mélancolie, la nostalgie, la dépression et la rêverie, il y a tout un. Enfin, je sais pas. Non, que je parle de. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. La mélancolie, c'est quelque chose de.
Elle peut être
étymologiquement, c'est très sombre, quoi, la mélancolie.
Ah oui, c'est la bile noire.
C'est,
hein,
la bile noire, voilà. Donc là, c'est pas cet aspect dépressif, mais c'est un peu cet aspect. Ouais, il y a quelque chose d'assez romantique, quoi, là-dedans. Même si tous ces mots vont pas convenir à ce que je veux dire. Oui, la mélancolie, je pense, c'est un moteur, oui. C'est-à-dire, les gens qui me connaissent me voient plutôt déconneur, on va dire. Mais c'est vrai que je fais rarement des films rigolos, quoi.
Est-ce qu'on pourrait l'envisager ça, finalement? Je pense à ça parce que Anna et ses sœurs est passée hier, hein, de Woody Allen. Mais Woody Allen, si on s'intéresse un peu, alors je vais pas vous comparer à Woody Allen, parce que je sais, balance ton pain,
il y a
même lunettes, voilà, après il y a un côté un peu obscur, hein, mais qui n'a pas été condamné. Ouais. Qu'allais-je dire? Oui, finalement, regardez.
Je sais plus que je suis abasourdi. Je sais pas quoi dire.
Non, finalement, Woody Allen, c'est un mélancolique, c'est un grand névrosé, un grand hypochondriaque. Voilà, il y a cette souffrance en lui. Il le dit. Hein, il a fait cet outing depuis longtemps. Voilà, on sait que c'est un type qui est un peu mal dans sa peau, hyper anxieux, s'inquiète de beaucoup de choses. Et c'est son moteur, et il fait, voilà, j'arrive à en venir. Voilà, ces films sont assez rigolos. Alors, il y a des Woody Allen un peu sombres parfois, mais bon, c'est pas le réalisateur le plus dark que l'on puisse connaître. Non. Il y a toujours cette ironie, et cette ironie sur lui-même. Est-ce que c'est un tournant que vous avez envisagé, ou des fois lorsque vous écrivez, voilà, de vous moquer de vous un petit peu, voilà, ou de vos inquiétudes,
Ouais, je sais bien que vous me comparez pas à Woody Allen, mais je sais pas si, sans aucune fausse modestie, je sais pas si je suis dans cette dimension où d'un coup j'ai une telle œuvre, avec beaucoup de guillemets, que d'un coup je vais changer mon fusil d'épaule et faire de... je sais pas, c'est vrai que je suis d'abord, faut trouver un sujet, je travaille pour la télévision, faut que je trouve un sujet, quand j'ai le sujet, après c'est la façon de le traiter qui fait que le film que j'ai fait juste avant ça, j'ai fait plusieurs films sur un convoi de déportation, donc c'est, on voyait bien que c'était pas la franche rigolade, et quand j'avais dit, on m'avait dit allez, vas-y, fais-nous un truc un peu rigolo, quand j'avais dit c'est bon, je vais traiter une comédienne. Mais j'ai rassuré, ouais, mais à la fin, quand même. Et au départ, je me suis dit, je pensais tourner ça, avoir un peu plus de décalage, quoi. Et en fait, la dramaturgie, c'est pas forcément la tragédie. Mais ce récit-là était marqué par, et je pense que j'ai une espèce de tropisme, une espèce d'attirance pour des choses qui sont plus.
Un peu dark, hein.
Un peu sombres. Parce que, peut-être, ça me parle, et peut-être c'est aussi une image assez différente de celle que je pense renvoyer, même si, en effet, je pense que c'est assez mélancolique. Je pense que, on disait tout à l'heure quand j'étais gosse, mais quand j'étais enfant, je pense qu'il y avait un peu cette sentiment de la fois de solitude, mais qui me déplaisait pas, quoi. Enfin, ma mère me disait souvent, vas-y, sors, il fait beau dehors. et moi, quand il faisait beau, et encore maintenant, hein, quand il fait beau, j'ai pas forcément envie d'aller gambader dans les champs, quoi.
Alors que vendredi dernier, voilà, avec le vent, la tempête, là, vous étiez dehors.
Ah oui, bon, ça fait assez une caricature. Vous me faites de moi une caricature avec les cheveux au vent dans la tempête avec, voilà. Châteaubriand, quoi.
Châteaubriand et bottes de cuir. Notez-la, elle est très bien. Où nous en étions, mon cher Paul Philippe. Elle est pas mal. Hein. Moi j'ai une question. Après on arrête de parler mélancolie. Est-ce que cette noirceur dans. Alors moi je dis vos œuvres, hein, parce que ce sont des œuvres. Voilà, appelons un chat un chat. Voilà, dans votre œuvre de façon générale où c'est quand même assez dark, assez noir. Est-ce que ça ne vous rassure pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de voilà?
Ah, faut que ça sorte, peut-être, oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Est-ce que ça vous sécurise pas, voilà, de traiter d'histoires un peu. Souvent tragiques
Ou très tristes. Je sais pas si ça me sécurise, mais en tout cas, c'est de fait, c'est des choses qui me. Ça me parle, je sais pas. Les sujets que j'ai traités jusqu'à maintenant, c'est des sujets qui sont sombres, mais j'avais traité un film sur un condamné à mort, parce que.
C'est quelque chose l'animal
est sur Xavier Roquine et qui a été exécuté en 1888, et cette histoire, c'est la peine de mort qui me parle, voilà. Non pas qu'en soi, on peut traiter de plein de façons. Je pense d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y avait un peu d'humour noir dans ce film, mais il y a quand même, j'ai oublié votre question, vous savez. Ou pas? Vous avez remarqué, j'ai oublié la question.
Vous allez retrouver.
Oui, bien sûr, sur mes pattes arrière.
Est-ce que cette noirceur, voilà, inconsciemment, est-ce qu'elle vous rassure pas? Voilà, est-ce que.
Oui, ben voilà. Bien sûr, on va dire la peine de mort, c'est un sujet sombre, et forcément, il y a des choses sombres à en tirer, mais parce qu'on parle de crime, qu'on parle d'exécution, qu'on parle de la peine de mort, qu'on parle de la guillotine, et que c'est forcément, il y a quelque chose d'assez sordide là-dedans. Le traité, c'est pas juste pour le plaisir de dire du sordide. Voilà, c'est la différence entre le traitement. Le récit et ce qu'on veut dire, voilà. Et j'avais envie de raconter cette histoire, là aussi, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de parler de la peine de mort, j'ai envie de parler de la guillotine, j'ai envie de voir comment ça se passait ici, ce qui s'était passé ici, la singularité de cette histoire-là. Il se trouve qu'elle est sombre, parce que le contexte, en effet, le récit est sombre. Parler de déportation, c'est forcément... Mais c'est aussi parler de la déportation, c'est aussi dire... comment on continue à vivre avec cette mémoire qui c'est une inquiétude, je pense, plutôt que qu'une qu'un attrait pour le sombre. C'est une inquiétude sur la déportation de d'ailleurs, le film s'appelait Ce qu'il en restera, parce que ma préoccupation, c'est comment on va continuer à véhiculer cette histoire-là, qui est essentielle, l'histoire de la déportation, l'histoire d'Auschwitz, quand il n'y aura plus de témoins directs, quand il n'y aura plus de déportés, d'enfants de déportés, que ce sera, des mémoires de, entre guillemets, c'est affreux, mais de dire de seconde main, quoi. Et qu'on aura les témoignages, qu'on aura la littérature, comment on va se réapproprier cette histoire-là. Donc forcément, c'est des sujets sombres. Et ces sujets sombres m'attirent, parce que je pense que même si on traite d'une... Même si j'avais traité, je trouve que la comédienne dont j'ai parlé a joué un rôle dramatique, mais en même temps, c'est quelqu'un qui était très... Donc Falconetti, qui est quelqu'un qui était très extravagant dans sa vie. Mais ça cachait autre chose, quoi. La complexité des gens, elle est pas. Si on traite que des gens rigolos et c'est de façon rigolote, ouais. Ça passe pas mon intérêt, quoi. Je me rappelle que Gainsbourg disait qu'il trouvait ça rien de plus sinistre qu'un ciel bleu, parce qu'un ciel noir, il y a la complexité. Un ciel bleu, c'est bon. Et quand c'est on est bleu. En Corse, qu'on vit, voilà. Quand on est en Corse, qu'on vit en Corse, et qu'on a le ciel bleu en permanence, on c'est est ennuyeux. Content. Il fait beau, mais à un moment donné, c'est bien que ça s'assombrisse un peu. Que voilà, après, ça fait très baudelairien la petite semaine, mais voilà, dans le ciel basilour pèse comme un couvercle.
Oh. On va en parler, ce documentaire, le dernier que vous avez signé, sur Falconetti, Renée Falconetti, une actrice, alors, pas très connue du grand public.
Non,
du moins de la nouvelle génération.
Je crois que les gens connaissent son visage, sans connaître son nom peut-être. C'est un visage qui est assez utilisé... voilà. C'est un visage qui est assez utilisé dans d'autres, même hors contexte, quoi, parce que d'abord c'est un visage qui a marqué le cinéma. Vous voulez qu'on parle
on Ah, ouais, je veux bien. Oui, après sans tout dire,
hein, on va pas. Oh non, bon, c'est pas. Donc c'est un. Oui, c'est un visage qui est une iconique du cinéma, qui est connu pour un seul film.
La fameuse passion de.
La passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, qui est sorti donc en 1928, qui n'a fait que ce film avec des C'est pas tout à fait vrai, mais elle fait que ce film. C'est ce film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et c'est l'un des chefs-d'œuvre pendant longtemps. Je pense même qu'on compte maintenant des journalistes spécialistes du cinéma le classe parmi les 100 plus grands films de l'histoire du cinéma. Le cinéma qui a 130 ans, 120 ans maintenant. Donc on peut considérer que c'est quelque chose qui restera dans l'histoire du cinéma. Et ce visage-là est un visage qui est bouleversant. Quand on connaît, quand on tombe dessus, enfin moi je trouve, en tout cas c'est un visage qui me bouleverse. Voilà, là aussi, c'est pas joyeux. Mais, en plus, c'est l'histoire d'un martyr, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. Le film s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc, délibérément pour être dans ce martyr, un peu en rapport avec le martyr du Christ. Même si c'est pas un film religieux, et moi, j'ai pas envie de faire un film religieux non plus. Mais le visage de cette comédienne, il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu dans cette incarnation. Voilà. Et cette comédienne était une comédienne de théâtre, qui était on a complètement oublié tout ça, on connaît pas son histoire avant, on connaît pas son histoire après, on connaît juste, encore une fois, cet aspect visage iconique, donc il y a ce visage dans une posture particulière, les yeux remplis de larmes, avec une espèce de lumière intérieure, bon, filmée à la perfection et de manière très radicale par Dreyer, à cette époque-là, donc c'est un film très, hors du temps, quoi.
Un Dreyer un peu despotique.
Dans le tournage, oui, despotique, mais je. Enfin, en tout cas, c'est plusieurs récits qui ont été faits là-dessus, autour du tournage de ce film, qui est un tournage très rude, parce qu'il a duré 6 mois, qu'elle a fait ce choix assez étonnant pour une comédienne de théâtre qui n'aimait pas particulièrement le cinéma, qui n'était pas vraiment tournée vers le cinéma. Et qui a été sollicitée par ce réalisateur qu'elle ne connaissait pas, qui était quand même déjà assez connu à l'époque, mais et qui lui a dit, je me suis de vous voir, ce que vous donneriez devant une caméra. Et elle a suivi, c'est ça qui est assez déroutant. Et cette histoire-là est assez, il y a des choses qui sont assez connues quand même pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma ou en tout cas à ce film-là. La façon dont la rencontre s'est faite, la façon dont il a mis devant la caméra et où en effet il a un peu, je sais pas si, oui, brutalisé. Il a pas brutalisé physiquement. Après, il y a une légende noire autour de ce film, autour de ce tournage-là et de ce lien très particulier entre ce réalisateur et cette comédienne qui se sont livrés l'un à l'autre, enfin, surtout à lui. Mais il a très bien compris qu'il y avait une puissance d'interprétation chez cette femme, chez cette comédienne qu'il avait vue au théâtre dans un rôle qui n'avait rien à voir. La pièce qu'elle jouait, je ne le dis pas dans le film, donc c'est une information en plus, c'est en 1926, une pièce s'appelait La Garçonne, je crois que c'était Victor Marguerite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, c'était un roman d'ailleurs au départ, qui était assez transgressif, mais qui était une comédie, c'est une comédie de boulevard, mais c'était quand même une comédie où une femme s'émancipait, qu'elle était trompée pour son mari. Je ne connais plus trop l'histoire, mais et lui, il a rencontré cette femme sur scène dans un théâtre parisien. Il l'a vue sur, il cherchait une comédienne et cette, elle jouait et en fait, il a vu un visage, il a vu une interprétation. Alors, je ne sais pas du tout comment elle jouait sur scène. Mais cet homme qui cherchait, ce réalisateur, qui cherchait quelqu'un pour interpréter Jeanne d'Arc, sachant très bien ce qu'il allait en faire, savait très bien qu'il allait la mettre, la pousser au bout de ses limites, que la comédienne, quelle qu'elle soit, il lui demanderait de se raser la tête. Il y avait quelque chose d'assez brutal quand même, dès le départ, dans la façon dont le scénario était écrit, dans la façon dont le tournage était prévu. Il voit cette femme sur scène et il dit ce sera elle. C'est quand même, il sent que c'est elle. Et par ce passage-là, par cette rencontre-là, elle rentre dans l'histoire du cinéma. Voilà. Et son visage entre dans l'histoire du cinéma. Et tout le reste disparaît. Tout ce qui faisait qu'elle était une star à l'époque, mais d'ailleurs, se souviendrait-on encore d'elle si elle n'avait pas fait ce film? Parce qu'il est vrai que le...
Sans doute pas.
Sans doute pas. Parce qu'il est vrai que comédienne de théâtre, le théâtre, c'est un peu le... C'est l'art de l'éphémère aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'instant de grâce, on joue sur scène, on les passe à un public qui vous voit, qui est séduit, qui... Mais la pièce de théâtre rentre dans les mémoires, mais elle n'est pas gravée sur pellicule, elle n'est pas inscrite pour l'éternité. Or, le visage de Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc reste dans l'esprit des gens, quoi. Et même il dépasse même l'histoire du cinéma, j'ai l'impression. Notamment, je vais être plus clair, récemment, aux Archives Nationales à Paris, il y avait une exposition sur la façon dont les femmes étaient jugées à travers l'histoire. Les femmes, les sorcières, toute la brutalité qu'il pouvait y avoir dans la façon dont la justice s'exerçait sur les femmes, avec la façon dont on considérait les femmes comme des sorcières ou comme des hystériques. Et pour illustrer cette affiche, il y avait cette exposition, il y avait une très grande affiche à l'entrée des Archives Nationales, et cette affiche, c'était une image de la passion de Jeanne d'Arc au moment où on rase la tête de Falconetti. Il y avait juste... je dis Falconetti parce que c'est comme ça qu'on s'est fait appeler.
Bon, parce que Falconetti, c'est d'origine corse, hein, ce nom.
Voilà, de Serman, voilà.
J'avais une question que je me posais lorsque j'ai vu votre film à l'Ellipse Cinéma, c'était à Ajaccio. D'ailleurs, vous nous direz comment faire pour revoir ce documentaire, pour ceux qui souhaitent le voir et le découvrir. La question que je me posais était la suivante. Je me suis dit, est-ce qu'il a choisi de faire ce film parce qu'il savait qu'elle était corse? Et du coup, il a un petit peu gratté, il a vu que, voilà, la passion de Jeanne d'Arc, tout cela. Ou alors, vous connaissiez ce visage emblématique et vous avez découvert plus.
Qui, de la poule ou de l'œuf?
Voilà, qu'elle était corse. Est-ce que vous en souvenez ou pas? Je sais, c'est.
Oui, je sais comment. C'est. Comment dire. J'ai un peu du mal à mettre les choses dans l'ordre, en fait. Parce que, quand j'étais plus jeune, ça vous vous en souvenez, ça. Quand j'étais plus jeune, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas né. Quand j'étais plus jeune, il y avait une série de télévisée qui s'appelait Le Riche et le Pauvre, avec Nick Nolte, dans les années 70. Je prends un grand coup de vieux. Et le méchant s'appelait Falconetti.
Il y a plus de 40 ans.
Ouais, il y a pile quand, merci. Je le rappelais. Le méchant s'appelait Falconetti. Et à l'époque, on habitait dans la région parisienne, et mon père, je me souviens de mon père qui dit, cuisse et courte. Et ce nom m'est resté, je sais pas pourquoi ce nom m'est resté. D'ailleurs, les gens de ma génération à qui j'ai dit, je fais un film sur Falconetti, qui? Le méchant du film, le méchant de la série. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, ce nom m'est resté, mais moi j'avais 11, 12 ans, quoi, donc,
donc ce nom, ça c'est un point de départ
très très lointain. Voilà. C'est vraiment une histoire très très lointaine. Et puis j'ai réentendu parler de Falconetti un jour. Vraiment, j'avais pas vu ce film du tout. J'avais entendu à la radio quelqu'un qui autour de la sortie d'une autre version de Jeanne d'Arc, du procès de Jeanne d'Arc. Je crois que c'était Sandrine Bonner qui jouait dedans. Et on lui avait dit c'est difficile de jouer Jeanne d'Arc quand il y a eu Falconetti. Et là, j'étais un peu plus vieux déjà quand même. Et ça m'a intrigué parce que je me suis dit, j'ai cherché à savoir, juste pour savoir à quoi ça correspondait, qui était celle Falconetti et à quoi ressemblait ce film. Et j'ai vu le film. Et j'en ai encore la chair de, je sais pas comment expliquer ça, ça fait quand même, ça me fait presque un peu snob, mais il y avait une espèce de, quand j'ai vu ce visage, et c'était vraiment il y a longtemps, c'est bien avant que je travaillais à la télévision même. Voir ce visage, entendre ce nom, il y a une espèce de familiarité, quoi. Et à la fois une familiarité, quelque chose de très intimidant par rapport à quand on est devant ce visage qui exprime une souffrance incroyable. qui n'est qu'une souffrance jouée, qui n'est pas. Bien sûr, il y a les tourments du tournage, la façon dont le tournage a été très très long et Dreyer tournait énormément, donc il l'a poussé à bout jusqu'à ce que, encore une fois, c'est l'instant de grâce, jusqu'à ce que il ait ce qu'il voulait et surtout jusqu'à ce qu'il ait il y avait un accord entre les deux, c'est-à-dire qu'elle aussi voulait aller au bout de quelque chose. C'était pas une victime de torture. C'est quelqu'un qui rentrait délibérément sur ce plateau de cinéma pour aller jusqu'au bout et pour écouter ce que disait ce réalisateur et pour se sublimer elle-même. Vraiment, je pense qu'il y avait ça là-dedans. Donc il y a eu ce processus-là qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de m'intéresser à cette femme parce qu'en effet, je travaille pour France 3 Corse, donc pour France 3 Corse et pour Dianti, donc. On essaie de trouver des sujets qui parlent de la Corse, qui proviennent de la Corse,
De Sandrine Bonner où vous découvrez qu'elle est corse ou non, pas du tout?
Non, mais je me suis dit, comme mon père 20 ans avant, que c'est courte. et j'ai cherché, puis j'ai trouvé, puis en effet, j'ai trouvé que...
Voilà, qu'elle avait voilà, puis, y avait,
j'en ai parlé avec d'autres personnes du même village, de Serman, ou... et voilà, il y avait une ascendance, même si c'est son père qui est né à Serman. Le lien avec la Corse est très distant, et même, je pense même qu'il y a un rapport un peu...
Inexistant.
Je sais pas si inexistant c'est le mot, parce qu'inexistant, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte. Voilà. Mais comme
très distant.
Je pense qu'il y a même une espèce de rejet. Et ça aussi, ça m'intéresse. Voilà. C'est pas, on n'est pas simplement là pour trouver que tout est bien chez nous, et que quand on parle de la Corse, forcément, ça va être une espèce de référence absolue, et qu'on va dire, c'est formidable, peut-être comédienne et corse. Elle est corse de fait, de loin. Je pense vraiment que ça n'a aucune importance dans ses propres choix, parce que je pense qu'elle, je n'ai pas de preuve qu'elle soit venue en Corse.
Et cette identité n'est absolument pas le cœur de votre film.
N'est pas du tout le cœur du film. Par contre, comme il y a des rapports assez très particuliers avec son père, que le père lui était corse, et que le père est mort en Corse, il y a quand même, je pense, même si c'est plus, entre guillemets, psychanalytique, des liens, en négatif, des liens sombres, je dirais, avec la Corse, parce qu'il y a des liens assez négatifs avec le père, voilà. Voilà, ce que je raconte là, les auditeurs vont rien comprendre ce que je dis, mais sauf s'ils ont vu le film.
Merci pour Philippe. Le temps passe très vite en votre compagnie. Ah ouais, on est 17h54 déjà. On aurait pu encore tenir 2 heures large.
Progression musicale, alors tout ça, un morceau.
Paul Philippi, où peut-on voir votre film, René Falconetti?
Alors, je pense qu'il est en replay sur le site de France 3 Corse VST. Là, je travaille à le faire. Bon, il y aura de nouvelles rediffusions. Là, l'ensemble des diffusions, il y a eu plusieurs diffusions sur VST. La dernière a eu lieu le 14. Je pense qu'il y aura sûrement a priori de rediffusions dans l'année. Je ne suis pas au courant, hein, mais c'est pas encore prévu, mais dans l'année probablement. Et puis surtout, je travaille à des projections, donc. Il est possible, voire probable, qu'il y ait une projection courant janvier à la Cinémathèque de Corse, et si tout va
à Porto-Vecchio,
et si tout va bien, une projection avec conjointement avec La Passion de Jeanne d'Arc, parce que je pense que les gens ne connaissent pas forcément La Passion de Jeanne d'Arc, et si le documentaire
permettra de mieux comprendre l'histoire que vous racontez, voilà. René Falconetti. Merci, Paul Philippe. Ce fut un plaisir de partager cette heure.
C'est un plaisir de parler. Ouais. Bon, je reviens après dans la suivante.
C'est ça, vous revenez de 20h à 23h. Merci, Paul Philippe. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. À mes côtés, il y avait Stéphane Casalonga et Marion Jodos.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
sa cloche, c'est pas où il est passé.
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
S'écriaient les inspecteurs.
Ben, c'est plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, il n'y a plus de preuves, hein? Hein, il n'y a plus de preuves.
On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la bolotte. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait.
Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé.